20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Bipède ou non, le fémur de Toumaï, le plus ancien hominidé, a fait l'objet d'une violente polémique au travers des médias scientifiques, Nature en tête. L'actualité entraîne parfois d'étonnants télescopages, puisqu'un autre fémur, exhumé dans l'ancienne demeure de Guillaume Seznec, a été attribué à Pierre Kemmerer. On le sait désormais quadrupède, ce fémur de bovin fait rire toute la communauté archéologique. Ces fouilles dites privées posent toutefois problème, puisque hors champ des habituelles fouilles programmées ou préventives, elles profitent d'un vide temporel, trop vieille pour la justice, trop jeune pour la culture. Pourtant, l'archéologie des temps contemporains existe bien, et pour cela, j'ai délibérément choisi une période bien plus récente que l'assassinat du conseiller général du Finistère en 1923, la Normandie de 1944, période d'une violence extrême dont les archéologues retrouvent vestiges et traces dans leurs fouilles. C'est à Merville, devant un des 3000 blocos du mur de l'Atlantique relevé par les archéologues, que j'ai rencontré Vincent Carpentier, Vincent Tessier, Benoît Labbé, tous archéologues à l'INRAP. Vincent Carpentier, certains archéologues suggèrent que l'histoire est au passé, ce que l'archéologie est à la mémoire.
C'est vrai qu'on est en prise directe avec le sujet de la mémoire, l'héritage, le devoir de mémoire, c'est des choses qu'on entend très fréquemment et que le problème, entre guillemets, à résoudre un peu difficile, la communication au grand public, avec en arrière-plan le deuil des familles, les crimes de guerre, etc. Bon, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est très très présent. Et l'archéologie exhume des choses oubliées du sol, ce qui, évidemment, bon, déclenche aussi un certain nombre de fantasmes, et puis remémore des épisodes pas toujours ni forcément très brillants ou très agréables de notre passé. Je pense que l'archéologie a surtout vocation à créer des documents qui contribue à la fabrique de l'histoire. Et donc, elle se doit de maîtriser tout cet aspect émotionnel, de mettre un peu de côté tout le pathos qui caractérise le sujet pour mettre en œuvre des processus rigoureux, d'enregistrement scientifique et critiquer un petit peu ses méthodes de travail.
C'est une archéologie balbutiante, pourrait-on dire ?
Oui, balbutiante parce que le sujet, du point de vue, encore une fois, strictement archéologique, est tout neuf. Avec la disparition progressive des témoins vivants, de ceux qui sont capables de nous raconter ce dont ils se souviennent, sachant qu'un écart important nous sépare des événements eux-mêmes. Donc les souvenirs, la mémoire a été recomposée au fil des années, ce ne sont pas forcément des témoignages qu'il faut prendre au pied de la lettre. En tout cas, toute cette présence du vivant par rapport à l'événement, aujourd'hui, tend à s'effacer. On l'a connu pour la Première Guerre mondiale avec la disparition des derniers poilus, c'est un processus parfaitement naturel, et les archéologues ont vocation, je pense, à prendre le relais de cette mémoire qui s'efface.
Alors qu'est-ce que l'on apprendrait de nouveau, puisque tout est dans les textes ?
Si tout était dans les textes, ce serait très simple, et je pense qu'il n'y aurait pas du tout d'archéologie, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est d'autant plus flagrant, effectivement, pour ce qui concerne les conflits de l'ère contemporaine, qui ont donné lieu quand même à la production d'une littérature statistique ou autre très abondante. Et pourtant, il suffit de connaître un peu l'histoire des crimes de masse commis par le nazisme pour savoir que beaucoup de sources essentielles à la compréhension de ce qui s'est passé ont disparu, ont été détruites. Voilà, donc l'archéologie ne prétend pas sortir un scoop à chaque fois qu'elle fait un trou dans le sol, mais l'idée, c'est bien de retrouver des choses qui ont été effacées, oubliées ou perdues.
Une sorte de détail du conflit ?
Oui, ça peut être un détail du conflit, effectivement, lorsqu'on se trouve dans des environnements de champ de bataille, par exemple, les objets, les traces peuvent très bien documenter un certain nombre d'événements pour lesquels on n'a pas beaucoup de renseignements dans les sources officielles, soit des journaux de marche de régiment, par exemple, ou autres. Ça peut être également, à des échelles plus importantes, documenter des constructions comme le mur de l'Atlantique, qui, à l'heure actuelle, n'est pas cartographié dans son intégralité, n'est pas complètement connu, ce qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui pour les décideurs. Tant dans la gestion du patrimoine que dans celle de l'aménagement du littoral.
Donc aujourd'hui, cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale en Normandie est prise en compte. On commence à ouvrir des terrains, à tester les sites, à retrouver donc des vestiges.
Oui, on fait plus que commencer, parce que je pense que ce qui s'organise aujourd'hui, c'est la mise en place de véritables chantiers de recherche, hein, ce qui est un peu nouveau par rapport à ce qu'on connaît depuis 2014, en gros, hein, puisque c'est le départ de cette archéologie, de cette ouverture à ces périodes très récentes, des chantiers nouveaux qui sont organisés sur des échelles compatibles avec celles des géographes, des historiens, de tous les acteurs concernés au premier chef par cet événement. Ça peut être, par exemple, l'échelle d'un théâtre d'opération. Hein, c'est le site sur lequel on se trouve aujourd'hui dans l'estuaire de l'Orne. Fait partie du théâtre de l'opération de la 6e division aéroportée britannique. Et donc, ce qui s'est passé ici est documenté aujourd'hui par une dizaine d'opérations archéologiques. Le chiffre est appelé à se développer encore et peut être abordé sur un plan d'égalité avec les historiens.
Alors on est passé bien sûr sur le Pegasus Bridge, qui est un endroit totalement incontournable donc du débarquement. Là on est vraiment sur un instant, et là on a de l'archéologie.
Effectivement, alors les objets qu'on va retrouver ou les traces laissées par les combattants s'étalent parfois sur une durée un peu plus importante, hein, parce qu'il n'y a pas eu que des parachutistes anglais qui sont passés sur le pont de Pegasus Bridge. Ce qui est certain, c'est que l'objectif pour nous, archéologues, est de pousser l'analyse jusqu'au plus précis possible dans la reconstitution du temps et de l'événement. Et c'est quelquefois possible grâce à des découvertes d'objets particuliers, significatifs, en particulier lorsque celles-ci sont relayées par des photographies aériennes ou recoupent des témoignages ou des événements consignés dans les archives militaires.
Ce pont, c'est quasi l'arrivée des premières troupes anglaises aéroportées.
Oui, premier village de France, avec toute la dimension touristique, etc., que ça peut véhiculer. En tout cas, c'est bien évidemment le symbole de l'engagement de ces troupes et puis de l'entrée en guerre du monde allié sur le théâtre d'opération de la Normandie. Les parachutistes britanniques comme américains avaient pour mission de sécuriser les flancs des grandes opérations de débarquement prévues le matin du 6 juin et s'y sont employés en subissant des pertes considérables au cours de ces combats, au cours des sauts eux-mêmes, au-dessus de zones inondées, au-dessus de la mer, et toujours dans des situations extrêmement critiques.
Tout ça va bien sûr s'opérer en plusieurs étapes. D'abord des parachutistes, ensuite des planeurs de chaque côté de l'Orne.
Oui, le déploiement de la division et de toutes ces unités d'artillerie, de blindés, etc., a demandé un effort logistique absolument hors norme, avec des équipements qui, pour l'époque, étaient top secret, des prototypes, dont ces planeurs dont on a pu retrouver certains vestiges. Faut savoir qu'aujourd'hui, il reste quasiment plus d'éléments intacts conservés dans les musées de ces appareils très particuliers qui ont servi deux fois lors de la Seconde Guerre mondiale sur le continent, une fois en Normandie lors du 6 juin, et puis une deuxième fois en septembre 1944 sur le site d'Arnhem pour la prise d'un pont sur le Rhin, des passages sur le Rhin, opération qui a échoué. En dehors de ces opérations très ciblées qui étaient très nouvelles du point de vue tactique pour l'époque, on n'a pas d'autres vestiges connus de ces fameux planeurs.
Les problématiques archéologiques sont-elles collées à celles des historiens ? Quels sont vos liens entre historiens et géographes ?
Alors c'est encore relativement flou. Bon, le lien s'impose de lui-même lorsqu'il s'agit de cartographier des vestiges, comme c'est le cas en particulier pour ces aménagements du mur de l'Atlantique. Les liens s'imposent naturellement avec les géographes, puisqu'il s'agit de travailler sur des fonds communs. Pour les historiens, de même, il existe des passerelles évidentes lorsqu'on aborde l'événementiel tactique, les relations avec les populations, etc. Mais ce sont des thèmes encore très jeunes. Et surtout, cet échange de données, cette transdisciplinarité vers laquelle nous tendons, exige aujourd'hui de poser des jalons, de jeter des bases critiques relativement solides. Et c'est ce qu'on se propose de faire dans les mois, les années qui viennent, à travers notamment des rencontres, des grands colloques organisés à l'échelle internationale.
En fait, vous rattrapez votre retard. L'archéologie était très en retard sur ce sujet.
Oui, car on a affaire, pour tout ce qui a précédé l'irruption de ce thème dans les programmes nationaux en 2014, on a affaire essentiellement à une archéologie d'amateurs, entre guillemets, sans que ce soit d'ailleurs un terme forcément péjoratif, mais en tout cas une archéologie qui, du point de vue intellectuel, du point de vue de ses méthodes, n'était absolument pas cadrée par des programmes communs, par une réflexion de fond sur des objectifs précis, et c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui, et c'est ce qui nous amène à chercher, à améliorer encore nos procédures de travail, à réfléchir sur nos finalités.
J'avais vu le chantier de Fleury, donc, qui avait été occupé par les troupes canadiennes. Vous avez eu d'autres chantiers depuis ?
Alors, effectivement, le chantier de Fleury-sur-Orne, au sud de Caen, a été tout à fait novateur et puis très important en termes de superficie et de volume de découverte. Depuis, on a multiplié les opérations un peu sur tout le territoire, et en particulier dans ce secteur au nord de Caen, théâtre d'opération donc de la 6e Airborne britannique, ce qui nous permet aujourd'hui d'aborder, à travers un corpus de sites de plus en plus étoffé, l'histoire de tout un chapitre de la bataille de Normandie.
Pour vous, ces champs de bataille et ces fouilles archéologiques que vous organisez, est-ce que ce sont des espaces mémoriels ? Pour les historiens en général, il s'agit plus de la nécropole. La nécropole est un véritable espace mémoriel.
Oui, alors on a affaire à un paysage mémoriel qui préexiste, qui est là depuis l'après-guerre en gros, mais surtout les années 70-80, avec un afflux touristique de plus en plus marqué. C'est un espace qui, dans ce secteur, est très décousu, qui est fait de spots mémoriels, d'emplacements très privilégiés au sein d'un paysage qui est très largement oublié du point de vue de ce qu'il a connu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'archéologie contribue aujourd'hui surtout à faire émerger les entre-deux, les interstices, et on se rend compte qu'il existe parfois une étonnante discrétion des vestiges sur des emplacements de très grande renommée, comme la batterie de Merville, par exemple, sur un site sur lequel on trouve assez peu de restes, alors que d'autres emplacements globalement non renseignés, inconnus, ont livré des volumes tout à fait considérables de traces.
Alors nous sommes devant un énorme blocos, bien sûr, mais que reste-t-il dans le paysage de ce débarquement ?
Alors, ce qu'il en reste, c'est assez peu de choses. Les blocos ne sont pas liés directement au débarquement lui-même, puisqu'ils avaient pour fonction de l'empêcher. Ça rejoint un constat qui avait été fait par des chercheurs américains il y a quelques années sur le site mondialement connu d'Omaha Beach, où finalement, ce qui reste aujourd'hui de cette énorme boucherie, ce sont quelques grains de sable, quelques gouttes de verre fondu et quelques grains de métal qui subsistent des éclats innombrables qui ont plu sur la plage. Ça pose la question de savoir aujourd'hui ce qu'il convient éventuellement de garder pour demain. La question également du récit et des preuves qui vont pouvoir l'étayer, qu'on va constituer pour les générations futures.
Benoît Labbé, le mur de l'Atlantique fondrait curieusement ? Il se détruit petit à petit ?
Tout à fait, tout à fait. On a beau être sur des vestiges qui sont massifs, très solides, tout ça, ça disparaît très rapidement. Ça disparaît à cause de l'érosion littorale, mais également à cause de l'urbanisation. On est quand même sur des zones qui sont touristiques, on est à proximité de la ville de Caen, donc forcément, on a énormément de constructions tous les ans, et les blocos sont amenés à disparaître finalement beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Et pour certains sites, c'est même parfois trop tard, puisqu'on a déjà tout a été détruit.
Vous êtes dans le recensement, dans la cartographie complète de cet inventaire ?
C'est ça, oui, tout à fait. En fait, depuis septembre 2015, on a entrepris justement un inventaire, alors le plus exhaustif possible, des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, au sens vraiment très large. On ne se limite pas forcément au mur de l'Atlantique. C'est vrai que pour l'instant, on a décidé de suivre le trait de côte pour des raisons pratiques. Et c'est vrai que sur ce trait de côte, ce sont les vestiges du mur de l'Atlantique qui sont les plus présents. C'est vrai que le béton armé, c'est quand même ce qui a résisté le mieux. On s'aperçoit que toutes les structures qui ont pu être construites par les alliés, alors les camps de prisonniers, les dépôts, les hôpitaux de campagne, etc., c'était des structures vraiment très légères. Donc ça n'a laissé aucune trace dans le paysage.
Mais on les fouille.
Mais on les fouille, tout à fait, ouais. Alors que pour l'instant, le mur de l'Atlantique, on ne le fouille que très rarement.
Vincent Carpentier, le recensement du mur de l'Atlantique, c'est à peu près quoi, 5-10 ans de recherche. Les fouilles que vous avez engagées, vous pensez que ça va être des programmes à très très long terme ou tout au contraire?
Alors c'est une question un peu compliquée parce que j'ai pas ma boule de cristal, mais bon, je pense qu'on est, comme on l'a dit, sur un effet de rattrapage aujourd'hui. Il y a une nécessité de constituer des dossiers qui auraient peut-être dû l'être auparavant. En tout cas, c'est le moment de le faire. Je pense aussi que l'aménagement connaît déjà des mutations importantes et ne se continuera pas dans l'avenir, en tout cas pas très longtemps, sur un rythme aussi soutenu en termes de surface détruite. Donc tout converge pour nous dire que ça durera effectivement pas 107 ans, comme on le dit. Ce qui va durer par la suite, après la constitution de ces dossiers, la constitution de ces sources, de ces bases de données, c'est la recherche elle-même. Et c'est un peu la finalité de notre travail aujourd'hui. C'est pas rater l'opportunité de le faire. Il existe en France une archéologie préventive reconnue qui a envers et contre tout les moyens d'exister et de produire de la donnée. Et je crois que c'est la recherche dans les générations qui viennent, en tout cas dans les décennies à venir, qui dépend de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour enregistrer ces traces bien fragiles qui disparaissent et qui ne reviendront pas.
Reste à voir donc bien sûr les objets que vous avez mis au jour et pour cela nous nous rendons donc à votre centre, le centre de Bourguibus.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Vincent Carpentier, nous voici donc dans le centre archéologique de Bourguibus. On pourrait dire face à la matérialité de ce débarquement.
Oui, et débarquement et les phases qu'on suivit, hein, puisque là, on est effectivement devant une espèce de collection invraisemblable de plaques de métal rouillées. Ce sont des vestiges de blindés de la bataille de Caen, qui a eu lieu donc à la fin du mois de juillet 44, donc bien après le débarquement, mais qui correspond à une offensive extrêmement violente des Alliés pour dégager la ville et fixer les divisions Panzer, et bien sûr offensive qui n'aurait jamais eu lieu sans la réussite du jour J.
Vincent Tessier, vous avez même de l'avion ?
On a retrouvé un crash d'avion au sud de Caen. On pense qu'il s'agit d'un avion allemand, un Fokker 190. On retrouve des débris assez divers. On retrouve des éléments de Sherman qui ont été impactés au sud-sud-est de Caen. On retrouve des morceaux de véhicules. On retrouve des plaques, des tôles blindées de chars allemands. On retrouve des choses assez diverses qui viennent des combats qui sont situés principalement au sud de Caen, là où on intervient fréquemment en fouille.
Vincent Carpentier, tout ça n'avait pas été ferraillé ?
Alors, ces vestiges-là, effectivement, ont échappé à la récupération. Bon, faut dire que la France, d'après-guerre, a grand besoin de ferraille pour se reconstruire, hein, voies ferrées, usines, etc. Et la plupart des épaves, notamment abandonnées sur les plages, y compris sous l'eau, ont fait l'objet d'une récupération quasi systématique. Les blocos, vous les démantelez aussi, vous récupérez les parties métalliques. Bon, là, on se trouve avec des vestiges vraiment de champs de bataille, dangereux, puisqu'ils sont souvent associés à des munitions. Ça, faut pas se leurrer. Hein. On a systématiquement, lors de ces opérations, la nécessité de faire intervenir les services du déminage. Et donc, tout ça a été remblayé par les militaires eux-mêmes, après les phases de combat, on relève les corps, hein, bien sûr. On a d'ailleurs des vestiges de casques carbonisés, etc. Et puis, tous ces éléments de temps qui peuvent pas être récupérés, reconstruits, remontés, sont ensevelis dans de grandes excavations, en l'occurrence ici des fosses d'artillerie.
Vous faites une archéologie du côté anglais et américain ou du côté allemand ?
Alors, la question m'amuse un peu, Vincent Charpentier. En fait, on se rend bien compte dans cet assemblage, cet échantillon, qu'il s'agit évidemment des deux, hein, de ces nations qui se sont affrontées. D'ailleurs, on pourrait aussi intégrer les Canadiens, les Polonais, les Australiens, Néo-Zélandais, tutti quanti, puisque dans ces fosses de déchets, y compris humains, comme l'expliquait l'autre Vincent, mon camarade de fouille, on retrouve aussi bien de l'allemand que de l'anglais, de l'américain. D'ailleurs, on a tendance à jargonner entre nous avec ces nationalités, en faire des appellations génériques, puisque l'un des exercices premiers dans notre interprétation consiste à essayer d'identifier les unités en présence et bien évidemment en arrière-plan dans nationalité.
Vincent Tessier, sur cette pièce métallique qui est complètement explosée, on serait sur quoi et quelle unité ?
On serait sur des unités allemandes qui sont stationnées ici, sur les hauteurs à Bourguébu, Berfoli. Et on est sur de la munition, une sorte de missile qui est lancé depuis le secteur et avec des engins assez spécifiques qu'on appelle les Nebelwerfer. Voilà.
C'est une sorte d'orgue de Staline ?
C'est ça, ouais, l'équivalent russe de cette arme.
Et il a complètement explosé ?
Alors oui, on a retrouvé effectivement, bon, on voit bien là cette forme en pelure d'oignon assez caractéristique ou en poulpe éclatée, c'est tout à fait explosé, hein, il y a aucun doute là-dessus. On trouve aussi, je vous le disais tout à l'heure, des munitions intactes. Ça, c'est un autre problème, c'est plus, ça relève plus de l'archéologue, mais du démineur. En revanche, l'étude de ces douilles, de ces carcasses, nous permet quelquefois d'identifier la phase exacte de combat à laquelle on est confronté sur tel ou tel site. Ces unités d'artillerie allemands, par exemple, sont intervenus de façon très intense dans le secteur de Solier, Grenteville, les villages du sud-est de Caen, où ils ont cherché à contenir la poussée des blindés alliés. Et donc, le positionnement des munitions peut être un indice parmi d'autres pour relier nos découvertes à des événements minutés très précis.
Ici, même à Bourguibus, ça a été aussi très violent.
Alors la craie de Bourguébu, comme celle de Verrières, qui se situe dans l'axe au sud de Fleury-sur-Orne, où il y a déjà eu des fouilles importantes d'un camp canadien du mois de juillet 1944, ces deux positions situées en hauteur sont des points stratégiques où ont lieu des combats extrêmement violents entre les divisions blindées britanniques et canadiennes, et puis les divisions Panzer, la plupart SS allemandes, qui ont cherché à contenir absolument et par tous les moyens possibles, donc c'était des combats extrêmement violents, contenir la poussée alliée en direction du sud. Pendant ce temps-là, les Américains, eux, œuvraient et mettaient tout en œuvre. D'ailleurs, ça a été assez long et compliqué dans le bocage normand pour se diriger vers l'ouest jusqu'à Cherbourg. Hein, donc c'est deux opérations, deux volets d'opérations simultanées qui ont engagé des milliers d'hommes et causé des pertes absolument colossales.
Dans la phase du débarquement, on est à peu près à quelle date ?
La phase du débarquement, on se situe entre 6 juin et je dirais très tard pour ce qui est de Caen, puisque la première partie nord de Caen n'est atteinte que le 9 juillet. Et il faut encore une bonne dizaine de jours pour que les troupes d'infanterie parviennent à libérer la moitié sud de la ville. Entre-temps, ce qui survient est hélas assez bien connu. La ville est rasée à l'issue d'un énorme bombardement qui précède l'opération Woodwood entre 18 et 21 juillet, opération à laquelle se rapportent nos vestiges, mais c'est à ce prix seulement que les Alliés sont parvenus à mettre en place leur plan et libérer ce verrou.
À Bourguibus, vous avez fouillé il n'y a pas si longtemps, vous êtes tombé donc sur des restes de chars ?
Oui, des restes de chars, encore une fois, qui ont été rejetés hein, en tant que déchets. Ce qu'on retrouve, ce sont bien des déchets du champ de bataille qui jonchaient la plaine. Tout ce qui était récupérable, bien évidemment, était récupéré par les mécaniciens, remonté et réutilisé pour la suite de l'offensive. En revanche, cette race, relativement bien identifiée en termes de nationalité, de type, etc., nous permet de documenter par l'archéologie, en plus des sources historiques plus traditionnelles, des photographies aériennes, une phase tactique de la bataille de Normandie qui est restée comme l'une des plus violentes de l'histoire de ce conflit.
On va avancer, on va aller dans l'autre pièce qui se trouve juste à côté. Et l'on découvre quelques objets, je dis bien quelques objets, sur un petit plateau. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors là, c'est effectivement un échantillon beaucoup plus restreint de traces du conflit qu'on a découvert sur le site de la batterie de Merville, très récemment. Donc c'est un haut lieu touristique et pédagogique, je dirais, des opérations britanniques aéroportées sur ce secteur situé à l'est des plages de débarquement. Une batterie qui couvrait la côte de son feu et dont les parachutistes anglais se sont emparés dans la nuit du 6 juin en faisant un maximum de dégâts, de
manière à rendre inutilisables les pièces d'artillerie. Alors ce dont on s'aperçoit avec ce plateau sous nos yeux, bon, qui arrive directement du terrain, c'est que finalement sur un haut lieu de combat, un haut lieu de mémoire, investi chaque année par des milliers de touristes, ben, on trouve assez peu de traces directes du conflit. Hein, des éléments ici, alors on a des fers bétonnés qui viennent de la destruction des casemates, on a bien évidemment des fils de fer barbelés, c'était un site entièrement comment dire, défendu par des barbelés et un champ de mine. Bon, mais en termes de volume et de poids, c'est tout à fait négligeable par rapport à ce qui s'y trouvait initialement. Les sites ont été nettoyés, déminés après-guerre, et finalement cet assaut aussi violent qu'il ait pu être n'a laissé qu'assez peu de traces.
Vincent Tessier, il y a quand même de l'obus de bateau là-bas.
C'est ça, on est en présence de vestiges de fusées d'obus. Donc on a réussi à déterminer le type de fusée, on appelle ça dans le jargon fusée d'obus numéro 230, qui vient d'un tir qui se fait depuis le littoral par le croiseur Aretusa. Donc il y a un appui qui est fait depuis le littoral, un appui-feu surtout, artillerie de marine.
Et puis la violence des combats d'homme à homme, c'est uniquement cette petite balle de fusil ?
Voilà, c'est là qu'on s'aperçoit, je trouve ce lot pour cette raison tout à fait intéressant, on s'aperçoit que l'archéologie ne raconte pas tout non plus. D'où la nécessité absolue de d'établir un dialogue avec les sources historiques, avec les témoignages, toutes les autres sources documentaires qui tournent autour du conflit, parce que ce qu'on va retrouver effectivement pour illustrer la violence extrême de ces combats, bah, c'est ici une balle anglaise, une balle de mitrailleuse. Bon, sachant qu'on peut la relier à ce qu'on sait de cette opération qui n'était couverte que par très peu d'armes lourdes, les parachutistes pour beaucoup sont tombés dans les marais inondés de la Dive. Donc on sait que ce vestige, j'ai envie de dire cette relique, est bien reliée à l'événement et finalement à l'équipement aussi, à tous ces aspects opérationnels, logistiques, etc. Mais bon, on a affaire ici qu'à des traces extrêmement ténues dans le sol.
Et puis, les plus beaux objets, parce que c'est réellement très beau, à savoir des pièces véritablement archéologiques, des planeurs.
C'est ça, des planeurs qui ont été trouvés à Blainville-sur-Orne. Ces planeurs proviennent d'une zone d'atterrissage, on appelle ça une landing zone. Donc ces planeurs ont été récupérés sur place, des soldats, des troupes, de l'artillerie, plus des troupes d'infanterie sont venus dans le secteur. Et on sait que les planeurs, enfin les débris de planeurs ont été récupérés et ont servi d'abri pour ces troupes qui occupaient le secteur.
Vincent Carpentier, ce sont des pièces rarissimes, on n'a quasi plus de planeurs donc, de ce 6 juin.
Alors en effet, il en reste très peu. Il existe une carcasse de planeurs en Grande-Bretagne et une autre très dégradée au musée Pegasus sur le site Bénouville-Ranville. Blainville-sur-Orne est un village situé juste dans ce périmètre d'intervention des parachutistes et aéroportés britanniques. Alors ce sont des vestiges fragiles qui ont été bien conservés parce qu'ils étaient enterrés et puis qui ont subi des traitements aussi particuliers, peinture, anticorrosion, etc. En 1944, ils se dégradent dès qu'ils sont positionnés à l'air libre et la question se pose aujourd'hui de savoir ce qu'on va en faire, c'est-à-dire est-ce qu'on va les garder en tant qu'archives historiques de ce conflit, est-ce qu'on va les exposer, c'est tout un processus qui est en cours actuellement.
Les cocardes sont très belles.
Les cocardes sont très belles, ce sont des pièces particulièrement rares d'identification des appareils, c'est des planeurs Orsa, hein, de la Royal Air Force, qui plus est assez emblématique de l'événement.
Donc vous pensez aujourd'hui que cela peut arriver dans un musée ou que ça doit arriver dans un musée ?
Je pense en tout cas que, bon, vous savez que les musées n'exposent pas toutes leurs collections. Ce sont certainement des pièces qui mériteraient, pour une bonne partie d'entre elles, d'être conservées dans les collections d'un musée, en ce sens qu'elles proviennent d'un site précis, d'un geste, leur position sur le site relève d'un geste précis, comportement de soldats au combat, qui ont créé des abris. Donc c'est quelque chose qu'on apprend quand on est un combattant, que reproduisent tous les combattants du monde. Et ils ont utilisé le matériel qu'ils avaient à disposition autour d'eux, c'est-à-dire ces fragments d'ailes de fuselage de planeurs Orsa, sachant que l'arrivée de ces planeurs a fait reculer pour la première fois les Panzers allemands. Donc il y a une signification historique très forte qui tourne autour de ces vestiges. Et je trouve que pour cette raison, il serait effectivement opportun d'en conserver au moins une partie représentative.
Carbone 14 était réalisé par Jean-Christophe Francis, à la technique Julien Douinc, et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se penchera sur la préhistoire insulaire des Antilles.